enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bah alors ce soir, on va commencer un thème ensemble, qui se trouve dans 1 Corinthiens 13. Le verset 13 exactement résume même notre thème. Tout simplement, on va parler de la foi, l'espérance et l'amour. La foi, l'espérance et l'amour. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître. Et je lirai, je commence à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Paul dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc là, c'est l'épître, la lettre que Paul écrit aux Corinthiens. Et particulièrement dans ce chapitre 13, Paul commence tout d'abord au début à parler, à faire ressortir l'importance de l'amour. Il leur fait voir qu'on peut être chrétien, on peut avoir des dons, on peut vivre beaucoup de choses avec Dieu, mais sans l'amour, on n'est rien. Il parle de la parole de connaissance, de la foi, de l'amour, des prophéties, et il dit que tant qu'on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et il va plus loin pour conclure ce passage. Il dit maintenant donc, ces trois choses demeurent. Et là, il parle de deux autres piliers de la foi chrétienne, deux autres piliers de la vie chrétienne. Il commence par la foi, il dit que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Il souligne en disant, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Aujourd'hui, nous allons commencer notre thème évidemment par la foi. On va suivre le même cheminement. On va commencer par parler de la foi. Nous posons la question de savoir pourquoi Paul, finalement, il fait ressortir ces trois choses. Il s'adresse à des gens à qui il avait déjà apporté la parole. Il leur écrit une lettre, il leur rappelle des choses et il souligne qu'il faudrait que trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Parce que tout simplement, Paul considère que ces trois éléments, ces trois choses, sont des piliers de notre vie chrétienne, de la relation que nous avons avec Dieu, de la relation que nous avons avec les autres, de la relation que nous avons aussi envers nous-mêmes. Il commence par la foi. Et la définition de la foi, tout simplement, la Bible nous parle dans Hébreux 11, si nous pouvons le prendre ensemble. Hébreux 11, où l'auteur de ce livre nous donne une définition de la foi. Il dit ceci dans le verset premier. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Là, il nous donne une définition pour dire que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et automatiquement, on voit que déjà, il y a un lien entre la foi et l'espérance. Parce que dans la définition qu'il nous donne de la foi, on retrouve le mot espérer. Il nous dit, mais c'est la ferme assurance. Tout simplement, la foi, c'est le fait que nous puissions croire fermement, c'est-à-dire de manière inébranlable, en quelque chose. Et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, nous, d'abord, notre foi repose en Jésus-Christ, parce que nous devons croire en Dieu. Il dit que c'est par la foi même que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Donc, la foi est présentée par la Bible comme une ferme assurance. La foi, ce n'est plus ou ce n'est pas quelque chose que l'on doit seulement prôner, que l'on doit crier, mais c'est une ferme assurance. Et quand on parle d'une ferme assurance, ça nous renvoie à notre fort intérieur. C'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose que l'on ressent à l'intérieur et qui va à l'extérieur. La foi, c'est quelque chose qui commence à l'intérieur et qui s'extériorise. C'est ça la foi. Il dit c'est une ferme assurance. Elle est ferme en nous. Elle est ferme parce qu'elle prend place dans nos cœurs. Elle est ferme parce que c'est nous qui croyons. Mais elle est ferme et elle croit à des choses qu'on espère et à des choses que l'on ne voit pas. À la fois, il parle de quelque chose de ferme, mais à la fois, il parle de quelque chose, si je peux dire, d'abstrait. C'est la ferme assurance. Il faut croire fermement, de manière inébranlable, mais à des choses qu'on espère, à des choses qu'on ne voit pas. Donc, quelque part, la foi, comme je disais, c'est quelque chose qui va de l'intérieur et qui va à l'extérieur de nous, qui va au-delà de nous, au-delà de notre temps, au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut toucher, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme raisonnement. La foi ne passe pas par l'intellect. Il dit c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, pas des choses démontrées, pas des choses qui ont été expliquées, pas des choses qui ont été prouvées. Mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Là, un humain dira qu'il y a eu une étape qui a été sautée. Et notamment les Français, on dira, ah, on a oublié Descartes quelque part. Le raisonnement cartésien ne fait pas partie de la foi. C'est une ferme assurance des choses, une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on ne voit pas. Qu'on ne nous a pas démontrées. On ne nous a pas donné des garanties pour ces choses, mais on espère. Et on croit. Une fois, j'étais en réunion avec des personnes et je leur ai tout simplement dit, je suis arrivé par quelques minutes après, quand on a fini, je leur ai dit, vous savez, je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Et j'ai pris le temps de vous observer quand vous étiez en prière. Chacun était dans son coin, en train de parler, de prier et tout. Je leur ai dit, mais quelque part, on a l'air un peu des fous. Parce qu'on voit chacun dans son coin en train de parler et tout. Est-ce que Dieu existe? Tout le monde me dit, oui, Dieu existe. J'ai dit, mais... Quand vous étiez en train de prier, je n'ai pas vu Dieu. Je n'ai pas vu Dieu. Mais tout le monde était en train de parler, tout en croyant que je m'adresse à une personne qui est vivante, qui m'entend, qui m'écoute, qui est capable à son tour de me répondre, de me toucher. Et c'est ça la foi, tout simplement. C'est que la foi ne passe pas par là. La foi, ça vient de là et ça sort. Et quand ça sort, ça va au-delà de nous-mêmes. Ça va même en dehors du temps. Parce qu'on espère. Et quand on espère, on verra ça plus tard, il y a la notion de la patience. On espère. Donc la foi, et tout simplement cette définition-là, c'est quand on met une ferme assurance, une ferme confiance en une chose, en une personne. Et en ce qui nous concerne, c'est Dieu qui est au centre de notre vie depuis le jour où nous lui avons confié notre existence totale. Il est le Seigneur et nous sommes les serviteurs. Et nous croyons en ce Seigneur. Nous croyons en son royaume, nous croyons en sa venue. C'est d'abord en cela que notre foi doit s'asseoir, sur laquelle doit plutôt s'asseoir notre foi. C'est pour ça que Paul commence par dire que ces trois choses demeurent. Il commence par la foi, parce que avant toute chose, il faudrait d'abord qu'il y ait la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, que te servira-t-il d'espérer et d'avoir l'amour, parce que l'amour, c'est la parole de Dieu. Il faudrait d'abord commencer par croire à cette parole pour que tu puisses la pratiquer. Et cette parole, tout simplement, elle t'amènera à aimer ton prochain, elle t'amènera à aimer Dieu et elle t'amènera à t'aimer toi-même. Donc, le tout vient reposer sur la foi. Comme je disais, la foi, quelque part, ne passe pas par la tête. Donc, les humains nous diront que la foi est une sorte de folie. Effectivement, la Bible nous le dit. Quand on revient dans Corinthiens, le chapitre 1, 1 Corinthiens, le chapitre 1, le versets 18 à 27, Paul dit ceci, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Donc, partant de ces versets, moi je peux encore ajouter une définition tout simplement pour dire que la foi... c'est une folie que Dieu nous a donnée pour confondre le monde et démontrer sa gloire. C'est une folie que Dieu nous a donnée. C'est un espace de folie que Dieu nous accorde, que Dieu permet, volontairement. Il permet que nous ayons cette folie-là, afin de pouvoir, par des choses folles, démontrer sa grandeur et sa puissance. Parce que nous savons que Dieu... notre Dieu aime bien utiliser les choses qui semblent être rejetées, faibles, abandonnées, afin de les utiliser pour sa gloire. Il prend les choses viles et il en fait des choses nobles. C'est ça notre Dieu. Et par la foi, Dieu nous permet justement cette folie pour que nous puissions tout simplement démontrer sa gloire. Parce que Dieu est Dieu. Et la divinité de Dieu ne peut pas être comprise, ne peut pas être cernée par l'intelligence de l'homme. C'est impossible. L'homme, dans toute sa sagesse, avec toute la connaissance qu'il puisse avoir, ne pourra jamais arriver à cerner la divinité de Dieu. Et Dieu se dit, pourquoi compliquer les choses? Puisque l'intelligence humaine ne peut pas arriver à cerner ce que je suis, alors je vais leur donner un espace de folie pour qu'ils puissent mieux me comprendre et qu'ils puissent mieux me démontrer. Parce que comme ce que je suis et ce que je peux faire dans la vie des humains, et toute mon œuvre n'est que folie pour les hommes, parce que en fait l'intelligence humaine ne peut pas comprendre. Ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. L'intelligence humaine ne peut pas arriver à le comprendre. Alors il se dit, puisque l'intelligence humaine ne peut pas arriver à la comprendre, je mettrai la folie pour que la folie, elle, puisse mieux expliquer ce que je suis et démontrer ce que je peux faire. C'est pour ça que oui, on nous prend pour des fous, mais c'est ça la foi. C'est ça tout simplement la foi, parce que la prédication de la croix, c'est une prédication folle. Mais qui vient confondre à son tour la sagesse des hommes. C'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu. La folie qui vient confondre la sagesse. Au lieu que ce soit la sagesse qui vienne confondre la folie, mais c'est la folie qui vient confondre la sagesse. Parce que la folie de Dieu, c'est la sagesse parfaite. Mais l'homme, tellement qu'il est conditionné par des principes, par des enseignements, par ses propres expériences, par les études, l'homme aujourd'hui est formaté. Il ne peut pas comprendre ce que Dieu fait. Il a toujours l'impression qu'il est à l'opposé de Dieu. Alors que ce que Dieu fait veut aller dans le sens de la race humaine, dans le sens de l'humanité. Mais l'humanité, parce qu'elle s'est révoltée et qu'elle s'est appuyée sur ses connaissances, sur son intellect, sur sa sagesse, alors Dieu en ce moment-là a dit, il faudrait qu'il n'y ait que la folie pour venir renverser cela. Donc cette foi nous permet aujourd'hui, à cause de cette folie, d'aller au-delà et de comprendre ce qu'est Dieu. Parce que quand on se dit que Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, comme le dit Jean 3,16, il faudrait vraiment être fou pour croire à une chose pareille. C'est-à-dire la folie de Dieu qui est tout simplement la sagesse et qui est tout simplement la foi. Comment se fait-il qu'un homme puisse envoyer son fils? Mais Dieu, on ne le voit pas. L'homme veut réfléchir. Comment d'abord a-t-il fait pour avoir un fils? Et comment est-il venu pour mourir pour nous? Il était si bon que ça? Le raisonnement humain ne peut jamais arriver à comprendre cela. Ce n'est que la folie de Dieu. Parce qu'on croit, tout simplement. Je crois. Et quand on croit, c'est une ferme assurance que nous avons au fond de nous, que Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils, l'unique qu'il avait, afin qu'au travers la mort et la résurrection de son Fils, nous ayons tous la vie éternelle pour quiconque croit. Et nous le croyons fermement. Et rien ne peut venir changer cela en nous. Nous croyons. Comme Paul disait encore dans Hébreux, nous croyons que Dieu, par sa parole, a créé le monde. Nous croyons tout simplement. On ne peut pas le prouver forcément par A plus B. Mais par la folie de notre sagesse, on le fait. Oh oui, il arrive bien des fois où on explique certaines choses, entre des amis peut-être, ou quand on n'arrive pas à te comprendre, on dit, oh, arrête de divaguer. Arrête, je crois que là, t'as peut-être pris la liqueur forte. Oui. Parce que même Samuel est venu à un moment donné pour dire à Anne, ma fille, pourquoi ne vas-tu pas rester dans un coin en attendant que l'ivresse passe pour que tu viennes prier Dieu? Mais Anne, elle croyait tellement à la personne à qui elle s'adressait. Elle priait, elle savait que sa prière, quelqu'un l'écoutait. Sa prière allait au-delà des railleries de la femme, de l'autre femme de son mari. Elle priait, elle se concentrait sur son Dieu. Et tellement elle croyait que ce Dieu était présent, elle savait que même si ce ne sont pas des grands mots qui sortent, mais ne serait-ce que les balbutiements de ma bouche, les soupirs qui montent, il m'entend, il m'écoute. Elle a dit non, Seigneur, ta servante n'est pas ivre, tout simplement, elle répand son cœur devant Dieu. Elle croyait fermement. Parce que quand on est fou, on peut tout nous accorder. On peut tout nous accorder. Et c'est ça qui est bien avec la foi. C'est pour ça que la foi, c'est une folie. Parce que quand on est fou, on nous accorde tout. Ah ben celui-là, il paraît que monsieur XY a fait ceci. Ah ben comprenez-le, il a quelques petits problèmes psychiatriques. C'est quand même une tolérance. Et cette tolérance-là, cette folie-là nous permet, nous, de croire à ce que Dieu peut faire, d'oser avec Dieu et de démontrer la gloire de Dieu tout simplement. Parce que l'on croit. De toute façon, le monde, même s'ils ne veulent pas croire en Dieu, mais ne serait-ce qu'ils croient en notre folie, et parce qu'on est fou, qu'ils nous laissent faire ce qu'on a à faire, ne serait-ce qu'à cause de ça, ne serait-ce que pour cette raison. Et c'est en ce moment-là que Dieu se manifeste. Parce qu'on fait des choses, non plus parce qu'on réfléchit, mais parce qu'on est devenu des fous de Dieu. Des fous de Dieu, pas dans le sens péjoratif comme le monde aujourd'hui le présente. Ah, les chrétiens, ce sont des fous de Dieu. Pas dans ce sens-là. Des fous parce qu'on croit à sa parole, à l'intégrité de sa parole. On croit à notre Dieu, on croit à ce qu'il fait, on croit à ce qu'il peut encore faire, on croit à son œuvre salvatrice au travers son Fils Jésus-Christ, on croit à la résurrection des morts, on croit qu'un jour nous serons avec lui dans son royaume. Et nous attendons ce royaume. Nous attendons ce royaume. Et c'est ça la foi. Nous croyons, c'est au fond de nous. Mais parce que c'est au fond de nous et que ça bouillonne au fond de nous, on ne peut pas retenir cela. Impossible, quelque part. Ça sort. Et une fois qu'on a extériorisé cela, comme je le disais, ben, ça va au-delà de nous. Parce qu'on a envie de communiquer cela aux autres. Et du reste, la doctrine que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ, la doctrine que nous appelons aujourd'hui le christianisme, c'est aussi le terme par lequel on le désigne en disant la foi. J'ai la foi en Dieu. C'est notre foi. Colossiens 2:7 dit ceci. Colossiens 2:7. Je veux même prendre à partir du verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en action de grâce. Donc c'est aussi le terme de notre doctrine, la foi. Notre doctrine, c'est la foi en Jésus-Christ. ça va au-delà de nous. On cherche à la communiquer parce que ça bouillonne au fond de nous. On croit tellement en quelque chose qu'on veut le dire. C'est rare de voir un fou qui s'isole. Souvent, le fou, il s'expose. Pas parce que tout simplement, il veut que les gens sachent qu'il est fou, mais lui, il croit qu'il plaît peut-être normal. Et il s'expose, il semble vivre sa vie normalement. Donc pour nous qui avons cette foi en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être cachés quelque part. Est-ce qu'on allume une lumière pour la mettre sous le lit, sous la table? Non. On la met bien haut pour qu'elle puisse éclairer toute la pièce, disait notre Seigneur. Donc cette foi quelque part, elle sort. Elle n'est plus en nous. Cette ferme assurance que nous avons, quelque part, nous commençons à la communiquer. Elle va au-delà de nous. Elle va au-delà des lois de la nature. Elle va au-delà de l'univers. Elle va au-delà du physique. Parce que nous croyons à ce que Dieu peut faire. Christ disait encore à la femme samaritaine, parce que Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Là, on n'est plus dans un monde physique. Elle, elle disait, oui Seigneur, nous aussi nous allons adorer sur la montagne. Ils avaient le mont Garizim, les Samaritains. Et les Juifs de leur côté, ils se réjouissaient en disant, non, en se frappant la poitrine, c'est nous qui avons la bonne doctrine. Nous, nous allons adorer à Jérusalem. Christ a dit, l'heure n'est plus à aller adorer sur le mont Garizim ou à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité parce que Dieu est esprit. Ah, là, cette assurance va au-delà. Cette assurance maintenant se base sur quelque chose qu'on ne voit pas, sur quelque chose qu'on ne peut pas toucher. L'abstrait, comme disent les humains. Notre foi vient reposer sur quelque chose qu'on ne voit pas. Ah, on est vraiment des fous. Comment on peut bâtir sur quelque chose qu'on ne voit pas, sur quelque chose qu'on ne touche pas? Mais nous, nous croyons que même si nos yeux physiques ne voient pas, mais les yeux de nos cœurs voient ce rocher sur lequel nous venons bâtir. Lequel rocher sur lequel nous bâtissons, même si la tempête se levait, nous n'allons jamais nous ébranler. Nous n'allons jamais nous écrouler. Ça, c'est nos yeux spirituels qui voient cette réalité. Parce que les yeux spirituels, c'est les yeux de la foi. C'est les yeux de la foi. C'est avec ces yeux-là que nous voyons comme Dieu veut que nous puissions voir. Et non pas comme le monde veut que nous puissions voir. Et non pas comme nos calculs, notre intellect. Et non pas comme ce monde nous prédispose. Oui, je disais, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde de format. On formate tout le monde. Tu dois être comme ça. Les choses doivent se faire comme ça. Il y a des principes, c'est comme ça. C'est humain, c'est comme ça. Tu poses pas des questions, c'est comme ça. Mais notre Seigneur va au-delà de ces lois-là. Au-delà des lois naturelles, des lois physiques. Alors qu'il revenait d'un voyage où il est allé faire l'œuvre de son père, il est arrivé dans ce village où il y avait beaucoup de gens rassemblés en un endroit parce que c'était un deuil. Et celui qui était mort, c'était son ami, Lazare. À peine il était à l'entrée du village, il y a la première sœur de Lazare qui vient lui dire, « Oh Seigneur, tu es venu en retard. Si seulement tu étais là un peu plus tôt. » Il s'est avancé. Il a rencontré la deuxième sœur qui lui dira, « Seigneur, du reste, l'endroit est là. Il est là à l'intérieur. Il est mort, bel et bien. Seigneur, tu sens ? Il y a déjà la putréfaction. Il se décompose déjà. » Et que les Juifs étaient tout autour pour dire, ah, cette fois-ci, c'est l'homme qui l'aime. On verra ce qu'il va faire. Il est mort. D'abord, un, il était malade, on ne l'a pas vu. Il paraît que c'est l'ami fidèle. Deuxièmement, il est mort. Il vient en retard. À la fin des obsèques, il est déjà enterré. Et avec ça, on dit que c'est l'ami fidèle. Troisièmement, il est déjà en décomposition. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais oui. Quand la Bible dit que c'est l'ami fidèle, c'est vraiment l'ami fidèle. Parce qu'il ne l'a pas lâché. Ah oui, mais Seigneur, regarde. Il est venu, il a tout simplement dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il voulait tout simplement me dire, ne t'ai-je pas dit que si la foi que tu as au-dedans de toi, tu la emmènes au-delà des réalités physiques que tu as en face de toi, tu verras la gloire de Dieu. C'est tout simplement ce qu'il a voulu dire. Extériorise ta foi, essaie de l'emmener au-delà des lois physiques. Essaie de l'emmener au-delà des principes humains. Essaie de l'emmener au-delà des principes de la biologie, de la nature, etc. Essaie d'emmener cette foi au-delà. Si c'est une ferme assurance, alors la même ferme assurance, inébranlable, emmène-la au-delà de tout. Et tu verras la gloire de Dieu. Elle n'a plus rien dit, il s'est approché, il a tout simplement dit, Seigneur, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Lazare, lève-toi et sors. Ah, lui, il a démontré que cette foi-là, inébranlable en lui, il a tout simplement extériorisé. Seigneur, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Lazare, lève-toi et sors. Et c'est ça la foi. Donc la foi nous permet de tout extérioriser. La foi nous permet d'extérioriser notre communion avec Dieu. La foi nous permet d'extérioriser les promesses que nous avons avec Dieu. C'est pour ça qu'il a fait suivre de l'espérance. La foi nous permet d'extérioriser la parole de Dieu qui est gravée dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il finit par l'amour. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole d'amour. Dieu est amour. Donc la foi nous permet d'extérioriser toutes ces choses. La foi donc, c'est une tranquille confiance en Dieu. L'attitude par laquelle une personne s'abandonne totalement à Dieu. Une tranquille confiance en Dieu. Et l'attitude par laquelle une personne s'abandonne totalement à Dieu. Sans réfléchir. Sans se poser trop de questions. Jean 11, 40, il dit ceci. Christ leur dit, et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre, Jésus s'éleva les yeux en haut et dit, Pierre, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est cette tranquille assurance. Dans toute la quiétude, il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'as toujours exaucé. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Il ne s'est pas dit, oui, je veux voir dans quel état est avancée la putréfaction. Non. Non. Il a dit, je veux voir, dites-moi d'abord, il est mort de quelle maladie? Est-ce que le processus est réversible ou pas? Non. Tranquillement, il est venu. Avec la ferme assurance, Père, je te bénis de ce que tu m'as exaucé. Lazare, lève-toi et sors. Jean 20, verset 29. Là, Jésus-Christ a affaire à Thomas. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il y a certains chrétiens qui disent, « Oh oui, moi j'aurais voulu être à l'époque de Jésus-Christ. Ça aurait été peut-être plus facile de croire. » Oh non, pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y a bien des personnes de son époque qui n'ont pas du tout cru. Mais Christ lui-même dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Nous sommes privilégiés, nous qui croyons aujourd'hui, nous n'avons pas vu ce Seigneur. Parce que ça fait encore grandir notre espérance. On se dit, un jour, nous le verrons. Ce Seigneur que nous avons tant adoré, tant aimé, sans pourtant l'avoir jamais vu. Mais un jour, alors notre espérance grandit. C'est pour ça qu'à un moment donné, Paul il dit, je suis pressé de partir. Mais aussi au même moment, j'ai envie de rester encore pour pouvoir parler davantage de mon Dieu. Notre espérance grandit parce que nous croyons, nous n'avons pas vu. Notre espérance est encore beaucoup plus grande. Comme si on te promettait quelque chose, on te dit, tu auras une surprise demain. Tu risques de passer même une nuit blanche. Disant, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que ça sera? Ton espérance grandira. Ton attente sera beaucoup plus grande par rapport à cette parole, parce que tu crois et tu n'as pas vu. Christ dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux nous qui croyons aujourd'hui sans avoir vu. Nous qui avons cette ferme assurance, pourtant, on n'a jamais été contemporain au Seigneur quand il était dans sa chair ici, bas. Mais heureux, nous dit la Bible. Parce que notre foi est à l'intérieur. Et parce que Christ vit en nous, nous savons que de toute façon, il est en nous. Nous savons que de toute façon, un jour, nous le verrons. Et il n'y aura pas de différence. Avec Pierre qui était avec lui, qui a marché avec lui, qui a mangé avec lui, ce jour-là, il n'y aura aucune différence entre Pierre et nous. Parce que nous aurons eu tout simplement la même assurance. Nous aurons eu tout simplement la ferme assurance qu'il est Dieu. Oui, on peut croire. Et on croit d'ailleurs à beaucoup de choses. On peut dire même que croire, c'est, si je peux dire, c'est un peu quelque chose de naturel. Parce que ça n'implique pas le spirituel. On croit. On t'explique quelque chose, tu crois. On va à l'école, oui, on croit. On est enfant, on croit tout ce que papa, maman dit. On croit. Ça n'implique pas le spirituel. Pas du tout. On croit parce qu'on a confiance, parce qu'on aime la personne, parce que la personne semble crédible. On croit. Mais la foi, elle, elle implique absolument le spirituel. Éphésiens 2, 8. Il dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Tout simplement. Donc la foi que nous avons quelque part, il y a quelqu'un qui est venu mettre une étincelle et ça a pris feu. La foi implique absolument le spirituel. Christ disait, je vous enverrai, le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de la justice, du péché et du jugement. Il nous convaincra de la justice, du péché et du jugement. Ce n'est pas que nous avons réfléchi ou que nous avons vu une image du Seigneur en disant, ah tiens, il a l'air vraiment crédible. Ah oui, comme la Bible a dit, il n'avait rien pour attirer nos regards, il était etc., etc. Ah oui, ça devait être sûrement quelqu'un de crédible. Non, ce n'était pas par rapport à ça. Ce n'était pas par rapport à son apparence. C'est pour ça que la Bible même disait, la prophétie d'Ésaïe disait qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. C'est-à-dire qu'il était comme le commun des mortels. Ce n'était pas par rapport à son apparence qu'on devait lui faire confiance. Ce n'était pas par rapport à ses origines qu'on devait lui faire confiance et avoir foi en lui. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il puisse naître dans une étable, parmi les animaux. Ça ne devait pas être par rapport à son origine sociale. Non. Ça ne devait pas être par rapport à la fonction de ses parents. C'est pour cela que ceux qui ont suivi cette piste-là se sont éloignés, se sont égarés. Et à chaque fois qu'ils voyaient le Seigneur, ils disaient, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Ils voulaient baser leur foi par rapport aux origines sociales de notre Seigneur. Et encore, ce n'était que ses parents adoptifs. Ils voulaient tout le temps faire un rapport. N'était-ce pas ce jeune homme qu'on a vu grandir au milieu de nous? N'est-ce pas le fils du charpentier? Mais la foi, ce n'est pas par rapport à ces choses-là, bien aimé. La foi, c'est par rapport au don de Dieu. Il nous a donné accès dans sa présence afin que tout le monde puisse croire. Ce n'est plus aujourd'hui une question d'une famille, d'une tribu, d'une seule nation, mais aujourd'hui, il s'est retourné vers tous les hommes, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, tout simplement. Et ça, c'est le don de Dieu. Ça, ça implique le spirituel, parce qu'il te faut croire. Et le Saint-Esprit, une fois que tu te disposes à croire en Dieu, le Saint-Esprit vient t'aider, il vient te porter et vient affermir cette foi-là afin que tu puisses t'enraciner dans la doctrine de Jésus-Christ. Afin que tu puisses t'enraciner et que tu puisses t'identifier au plan salvateur de Dieu, que tu puisses t'identifier à la mort de Jésus-Christ à la croix parce qu'il a payé pour nous. Et à sa résurrection, et il est assis à la droite du Père, il intercède jour et nuit en notre faveur, et il reviendra. Que tu puisses croire à ces choses. Le Saint-Esprit vient pour affermir ta foi. Le Saint-Esprit vient pour porter ta foi, pour qu'elle aille au-delà. Que tu ne crois pas seulement que le Seigneur est là pour te donner la vie éternelle, mais que tu crois que même dans les moments difficiles, il intervient. Que tu crois que quand tu pries, tu ne parles pas en l'air, mais que tu t'adresses à une personne qui est vivante, qui est capable de te répondre, de te toucher, de te saisir, de t'enseigner. Donc on peut croire tout simplement, mais la foi va au-delà. La foi va au-delà, parce que c'est le don de Dieu. Parce qu'on croit à cause de Dieu. On croit ce que Dieu a fait. Par la foi en Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ est le fait de croire en tout ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. Ce qui a pour conséquence tout simplement la vie éternelle. Je le disais tout à l'heure, Jean 3,16 nous disait, quiconque croit ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Donc cette foi, quand on s'identifie en Jésus-Christ à ce qu'il a fait, c'est tout simplement son œuvre. Et quand il a fait son œuvre, il a dit tout est accompli. Notre Seigneur n'est pas venu pour faire un travail approximatif. Notre Seigneur n'est pas venu pour faire un travail d'à peu près. Mais il est venu pour commencer et finir. Il a dit tout est accompli. Et quand on croit à cette œuvre-là, ça n'a que pour conséquence le salut, la vie éternelle. Et nous disons, nous avons foi au Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons ce qu'il est. Romains 10, le verset 10. Dit justement. Romains 10, le verset 10 nous dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On prendra également Romains 5, le verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous croyons en quelque chose. Romains 10 dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Donc on ne peut pas croire et étouffer cela en nous. Non. Parce que le Seigneur, lui, il nous a prouvé que je peux encore sauver l'humanité. Même si le diable voulait, et par plusieurs reprises, le diable a voulu démontrer à Dieu que ça ne sert à rien de mettre ta confiance en la race humaine. Dieu s'est dit, moi je crois qu'il y a encore de l'espérance. Moi je crois que je peux encore faire quelque chose. J'ai confiance quand même à cette créature chérie. Même si elle m'a déçu tant de fois, j'ai encore confiance à cette créature chérie. Je crois que je peux encore faire quelque chose. Si pas tous, mais quelques-uns croiront. Et il dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et nous, à notre tour, la Bible dit, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Tu ne peux pas croire du cœur et garder. Impossible. Si réellement tu crois, quelque part, ça va au-delà de toi. Si réellement tu crois, à un moment donné, ça sort. Si réellement tu crois, ça va au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu as appris, au-delà de toutes les barrières qu'il peut avoir devant toi. Parce que c'est comme ça. On croit du cœur et la conséquence, c'est qu'il faudrait qu'on confesse de la bouche. Confesser de la bouche, c'est quand on confesse dans notre vie de tous les jours. C'est ça la vraie foi. Oui, c'est vrai, aujourd'hui avec le modernisme, on parle de certaines personnes qui disent « Oui, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. » Je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Mais je suis croyant. Oui, mais moi je pense que quand on croit fermement à quelque chose, on pratique. Ou bien alors on ne croit pas, on fait semblant. Moi je crois que quand on croit à quelque chose, on pratique. Quand on croit à quelque chose, on s'implique. Mais quand on croit à quelque chose et qu'on veut rester extérieur à la chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance. On n'est pas totalement convaincu. Pour une petite histoire, une petite anecdote comme ça, il y a un prédicateur qui va dans un village et il y avait une grande vallée. Il relie les deux extrémités d'un fil et tout. Vous voulez faire comme un, comme les funambules un peu. Il dit qui croit que je peux traverser d'un bout à l'autre sans tomber, je sais pas combien de mètres dans le vide. Tout le monde dit oui, moi. Il y avait une dame qui disait toujours en premier, moi je le crois. Il va de l'autre côté, il revient, c'était parfait. Il dit mais qui peut croire que je peux faire le même trajet avec une brouette cette fois-ci? La dame en premier, moi je crois. C'était très bien. Le reste du village également, moi je crois. Troisièmement, il dit, mais qui croit que je peux faire la même traversée avec une personne sur mon dos? La dame, elle dit, moi je crois, tout le monde, moi je crois. Elle dit à la dame, puisque tu crois, viens, je te mets sur mon dos et on traverse. Non, il faudrait choisir une autre personne. C'est un peu ça. Je crois que quand on croit, on s'implique. On croit au Seigneur Jésus-Christ, on pratique sa parole. On croit au Seigneur Jésus-Christ, cette foi, elle est démontrée. Parce que tout le reste viendra se poser sur cette foi-là. C'est pour cela qu'il dit justement, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Sinon alors, ça ne sert à rien. Sinon alors, ce n'est pas une foi sûre. Parce que la foi, c'est ce risque-là de croire en Dieu sans l'avoir vu. C'est ce risque-là de croire que quand je prie, Dieu m'écoute. C'est ce risque-là de croire qu'un jour, j'irai avec lui dans sa gloire. C'est ce risque-là. Si j'emploie le mot risque, c'est tout simplement pour éveiller notre conscience. Un jour, j'ai dit à des personnes, imaginez-vous qu'à la fin, après que le monde soit passé, etc., on se retrouve toute la terre rassemblée et on dit, vous savez quoi, la plus grosse blague, Dieu n'existe pas. Oh là là. On va accuser qui? On portera plainte auprès de qui? Mais quand on s'engage, j'emploie ce mot risque pour dire que nous n'avons pas vu Dieu, mais nous croyons en Dieu, parce que nous le sentons par son Saint-Esprit en nous. Et nous croyons fermement en disant, Seigneur, nous soupirons après ton royaume. Nous savons qu'un jour tu viendras nous prendre. Seigneur, si je respecte ta parole parce que je sais que c'est la vérité. Si je marche avec toi, Seigneur, c'est parce que je sais que tu es réellement mort pour moi. Je n'ai peut-être jamais mis mes pieds en Israël, sur les lieux en question, mais je crois. Du reste, peu importe l'endroit, si tu es mort pour moi, si ton sang a réellement coulé, et si tu es réellement ressuscité, peu importe l'endroit, je crois que j'ai le salut. Je crois, et c'est ferme en nous. Rien ne vient bousculer cela, rien ne vient ébranler cela. On croit. Et on se dit, Seigneur, après tout, même si c'était vraiment une grosse blague, Seigneur, j'ai cru quand même. J'ai cru quand même. Et je ne regrette pas d'avoir cru. Parce que du reste, Seigneur, j'aurais bien vécu sur la terre. J'aurais aimé mon prochain. J'aurais cru. J'aurais eu des expériences avec toi. Même si à la fin, on vient me dire que c'était faux, tu n'existes pas. Je ne regrette pas parce que du reste, Seigneur, j'aurais marché dans l'intégrité. Et c'est ça la foi. Pour finir, Joseph, tout simplement, il a dit... Alors qu'il avait les promesses de Dieu, il n'a pas vu la terre. Il a tout simplement dit à ses frères et sœurs, je vais vous demander une seule chose. Après que je sois mort, le jour où Dieu vous visitera et qu'il vous emmènera, il vous fera remonter dans le pays qu'il a promis de donner à nos pères. Prenez mes os et emmenez-les. Quelle foi! Sa foi est allée au-delà de la mort. Prenez mes os. Même pas prenez ma dépouille. Oui, vous pouvez dire prenez ma dépouille dans l'espoir que je meurs lundi et puis c'est mardi, la délivrance, on sort. Au moins vous irez m'enterrer. Mais il dit prenez mes os. Prenez mes os et ramenez-les. Parce que je crois au-delà du temps, au-delà de toute chose. Moi je crois dans une seule chose, surtout une chose. N'oubliez pas mes ossements. Ramenez-les. Quelle foi! Quelle foi, alors qu'il n'y avait aucun signe de la délivrance. Mais il a dit, je crois. Je crois. Et notre foi doit aller au-delà de tout. Seigneur, même si tu reviendras 1000 ans après ma mort, mais ça ne sera plus mes os, Seigneur. Je sais que tout simplement qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Et je verrai ta gloire. Seigneur, ne m'oublie pas quand tu reviendras. C'est ça la foi. Parce que je sais que tu reviendras. Elle va traverser le temps, elle va traverser l'éternité, les obstacles, il va tout traverser pour atteindre Dieu, parce que Dieu est en dehors de tout ça. Il est en dehors du temps. Il est en dehors des réflexions humaines. Il est en dehors de ce monde. Et notre foi doit aller jusqu'à lui et rester ferme, inébranlable par le Saint-Esprit de Dieu. Nous aurons à continuer prochainement pour la suite. On parlera encore de la foi. Et que Dieu nous bénisse.